Écoute. Écoute.
Bonjour, je reçois aujourd'hui Christian Le Chervy, qui est secrétaire permanent pour le Pacifique et en même temps représentant permanent de la France auprès de la Comédie du Pacifique. Donc vous êtes un peu l'ambassadeur de France pour le Pacifique. L'histoire entre la France et la région Pacifique est passée par de moult épisodes. On se rappelle des essais nucléaires, de l'affaire des Rainbow Warriors qui avait tendu les relations entre la France et le Pacifique. Est-ce que vous diriez que cette époque est révolue et que désormais il y a une relation apaisée entre les pays du Pacifique et la France ?
Il y a à la fois des relations apaisées et puis des relations qui se sont considérablement densifiées. Les relations de la France avec les États et territoires insulaires du Pacifique, au fond, s'ordonnancent de trois manières. Nous participons dans les mêmes organisations régionales. Depuis 1947, nous l'oublions parfois, la principale organisation régionale de coopération du Pacifique a son siège à Nouméa, la communauté du Pacifique qui autrefois s'est appelée la Commission du Pacifique Sud. Nous y siégeons, nous y coopérons avec l'ensemble des États et territoires dont certains ne sont pas pleinement souverains, c'est-à-dire qu'autour de la table, on trouve l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, Fidji, mais aussi des territoires comme les îles Cook, Niue, Tokelau, et les territoires français, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna. Nous participons aussi au développement des relations bilatérales. Alors les relations bilatérales, elles s'ordonnancent en réalité de deux manières. Il y a les relations que la France entretient de manière bilatérale avec chacun des États et territoires, qui sont des relations politiques, militaires, économiques, culturelles. Et puis, il y a les relations qu'entretiennent en propre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. À un tel point que aujourd'hui, dans un certain nombre d'organisations, y compris les plus politiques, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des membres de plein droit, là où la France n'a pas forcément de statut, je dirais, de plein exercice. C'est le cas au sein de la principale organisation politique, qui est le Forum des îles du Pacifique, dont le siège est à Fidji.
Quels sont les intérêts de la France dans la région? Qu'est-ce qu'elle a à défendre? Qu'est-ce qu'elle a à promouvoir?
Les intérêts de la France, ils sont d'abord liés à ces territoires. Ces territoires qui sont d'ailleurs pas seulement liés au Pacifique Sud. C'est un raccourci un peu pratique. N'oublions pas que nous avons aussi des territoires dans le nord du Pacifique, notamment au large du Mexique, que sont les îles de Clipperton. Certes, elles n'ont pas d'habitants, mais elles constituent un des points d'appui depuis longtemps de la présence...
Et une zone économique exclusive extrêmement importante.
Alors c'est un sujet évidemment récurrent. En tout cas, c'est une zone à protéger de pêche illégale ou aussi de l'employer dans le cadre des commerces internationaux des stupéfiants, puisqu'on est, je dirais, sur la route qui conduit de l'Amérique latine vers les États-Unis. Donc nous avons, je dirais, des intérêts patrimoniaux liés à nos territoires, à la protection de nos ressortissants. Nous avons à peu près dans les États et territoires insulaires du Pacifique, hors Australie et Nouvelle-Zélande, un peu plus d'un demi-million de Français qui résident. Nous avons aussi dans le Pacifique des intérêts liés, je dirais, aux relations internationales. Les États et territoires insulaires du Pacifique représentent à l'Assemblée générale des Nations Unies près de 8% des voix. Un État membre permanent du Conseil de sécurité se doit d'avoir des relations avec l'ensemble de la communauté internationale, dont les petits États et territoires qui
constituent... C'est grosso modo une vingtaine de voix.
On peut considérer que c'est une petite quinzaine de voix, oui.
Est-ce qu'elles sont liées? Est-ce qu'elles sont... On a vu que nombreux, c'était dans ces États-là qu'ont été les États les plus nombreux à soutenir le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce que ce sont des voix qui peuvent bouger ou elles sont liées à l'avance?
Non, elles sont pas liées à l'avance. D'abord, nous avons affaire à des États souverains, et ces États souverains ont développé considérablement leurs relations internationales dans ces dernières années. Et ils l'ont fait de trois manières. Ils se sont constitués en groupes politiques. Le Forum des îles du Pacifique, le Forum de développement des îles du Pacifique, les uns comprenant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les autres les excluant. Donc il y a un monde océanien qui s'est constitué politiquement et qui d'ailleurs se rassemble aux Nations Unies sous le terme groupe du Pacifique, séparé du groupe asiatique. Les États du Pacifique ont aussi développé des relations avec le reste du monde, sur un modèle, j'allais dire, Pacifique plus 1. Alors, il y a tous les 3 ans des sommets entre les chefs d'État et de gouvernement du Pacifique avec le Japon. Ils le font depuis 1997 avec la France. Le prochain sommet se tiendra en 2018 en Polynésie française. Mais ils le font aussi avec d'autres pays. Ils le font avec Cuba, ils le font avec la Turquie, ils le font avec les Émirats Arabes Unis, ils le font avec le Maroc, ils le font évidemment avec des pays d'Asie, à commencer par la Chine, l'Inde, la Thaïlande, pour ne citer que quelques exemples. Donc on a une région pacifique qui s'est agrégée au reste du monde. Et enfin, les États et territoires du Pacifique ont constitué des groupes ad hoc, notamment sur des thématiques. Les petits États insulaires en développement qui rassemblent des pays du Caraïbe, de l'océan Indien et du Pacifique. Donc, même si ce sont parfois de tout petits États, ils ont des diplomaties extrêmement sophistiquées qui fonctionnent dans le système des Nations Unies et, j'allais dire, avec la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle à tout le monde.
Ils ont les moyens de cette diplomatie parce que c'est souvent des pays à la démographie réduite. Entretenir un appareil diplomatique, il faut quand même des personnes, il faut des moyens. Est-ce qu'ils ont les moyens de cette diplomatie ?
Alors, tout d'abord, ils ont effectivement un nombre d'ambassades relativement réduite. Pour certains pays, cela peut compter 3-4 ambassades, mais dans des endroits clés. New York pour les Nations Unies, Bruxelles dans leur rapport à l'Union européenne, la quasi-totalité des petits États insulaires, y compris les petits États insulaires en développement, ont une ambassade auprès de l'Union européenne, puisque c'est un partenaire structurant en matière d'aide. Donc non, il y a de l'intelligence dans le relationnel. Le fait d'être à la fois courtisé par l'ensemble de la communauté internationale, de bénéficier de financements de diverses sources, ça vous donne une très grande liberté d'action. Et force est de constater que ces États qui sont jeunes aussi, beaucoup d'entre eux ont moins de 40 ans d'existence, ont su développer ce relationnel et surtout, je dirais, construire des alliances, à commencer au sein du Pacifique insulaire lui-même.
Vous parlez d'États qui sont courtisés. Quelles sont, à part la France, les puissances qui sont actives dans cette partie du monde et qui cherchent à développer des liens ou surtout à faire des alliances, toujours dans cette perspective dont vous parliez, notamment de voix à l'ONU?
Toutes les puissances émergentes ont une politique du Pacifique. Il n'y a rien de nouveau. L'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, la France l'ont conduit, j'allais dire, depuis le courant du XVIIe siècle. Donc aujourd'hui, on n'est pas surpris de voir non seulement la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, mais aussi des États plus lointains comme le Chili ou l'Inde constituer des politiques du Pacifique. Parce que on ne peut pas construire des alliances mondialisées sans un nombre d'États et répondre aussi à leurs préoccupations qui sont très particulières parce que ce sont certes souvent de petits États, mais qui sont confrontés à des menaces, je dirais, sur leur existence même du fait des évolutions de nos climats.
La Nouvelle-Calédonie va se décider sur son avenir, rester sous souveraineté française, dans une forme bien sûr particulière, ou prendre son indépendance par rapport pour la présence française dans la région. Est-ce que c'est un enjeu majeur ?
Tout d'abord, n'oublions pas que la Nouvelle-Calédonie est déjà un acteur sur la scène internationale. Les relations internationales, c'est une compétence partagée. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a des compétences d'ores et déjà en matière de relations internationales. Et il les exerce. Il les exerce en développant des coopérations bilatérales. Signature d'accord avec le Vanuatu, signature d'accord de coopération avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Calédonie dispose aussi d'un service de relations extérieures attaché à son président du gouvernement. La taille de ce service de relations extérieures, qui entretient des relations avec les pays de la région, avec l'Union européenne, notamment dans le cadre des accords entre l'Union et les petits territoires d'outre-mer, fait qu'il est un acteur de coopération. Et enfin, la Nouvelle-Calédonie participe à un grand nombre d'organisations internationales, je vais dire, sous ses drapeaux. C'est vrai d'organisations régionales comme le Forum des îles du Pacifique, mais c'est vrai aussi à l'UNESCO, depuis quelques mois, la Calédonie est devenue un partenaire associé, de la même manière à l'Organisation internationale de la francophonie, et les accords de Nouméa prévoient d'autres organisations internationales, à commencer par l'Organisation internationale du travail. Donc, avant même le processus référendaire, la Nouvelle-Calédonie est un acteur, très actif sur la scène internationale, aussi bien dans les domaines politiques que dans les domaines économiques et culturels. Alors le référendum, évidemment, c'est un moment important, puisque la question qui sera posée, elle est déjà inscrite dans notre Constitution, porte sur la pleine souveraineté. Si tel était le choix, ça changerait évidemment le statut international de la Nouvelle-Calédonie et les rapports que nous entretenons avec elle. Le référendum lui-même fait l'objet d'une très grande attention des pays de la région, à commencer par le Forum des îles du Pacifique, qui a porté aux Nations Unies cette question depuis des années. Et puis, dernier élément, les organisations régionales, je dirais, évoluent aussi, et elles souhaitent en particulier développer des coopérations économiques. Or, la Nouvelle-Calédonie, c'est une puissance du Nord, au sens où c'est déjà un territoire développé dont le produit intérieur brut...
Qui est plus riche que ses voisins.
Et que chez ses voisins. Et donc, il est déjà dans un rapport de coopération, j'allais dire Nord-Sud. La cardinalité n'est pas tout à fait la bonne, mais c'est aujourd'hui un donateur net en matière d'aide au développement sur ses fonds propres aux pays de la région, à commencer par son plus proche voisin, qui est le Vanuatu. Donc, le référendum s'inscrit dans cette dynamique qui est déjà engagée depuis plusieurs années.
Alors, plusieurs choses pour rebondir sur ce point. D'une part, les pays de la région qui, auparavant, faisaient assez facilement le procès de la France par rapport à la situation en Nouvelle-Calédonie, ne le font plus désormais.
Non, ils ne le font plus, et si on en voulait, j'allais dire, une preuve, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont devenus en septembre 2016 des membres de plein droit du Forum des îles Pacifiques et ont le même statut que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Fidji, dans cette organisation. Pourquoi ils sont aussi bien acceptés? C'est parce qu'au fond, les défis auxquels ces territoires sont confrontés sont les mêmes. Les frontières, le statut juridique des territoires ne vous empêchent pas de devoir faire face à la gestion d'espaces archipélagiques, avec des problèmes particuliers de transport, de politique de médecine. Le développement de la télémédecine est un enjeu pour l'ensemble. D'être confronté à des politiques agressives en matière de pêche, de faire face aux conséquences de la montée des eaux ou de l'acidification des océans. Et donc, ces coopérations sont vues aussi avec intérêt par les États de la région, parce que non seulement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont des donateurs, mais ils sont aussi des pourvoyeurs, je dirais, d'aide, y compris dans le domaine scientifique et technologique.
Selon le résultat du référendum, est-ce que la présence française dans la région serait complètement bouleversé, ça serait une révolution, ou quel que soit le résultat, il y aura toujours une sorte de continuité dans le maintien de la présence française?
Le référendum ne porte de toute façon que sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc, la présence française...
C'est quand même une base importante pour notre présence.
C'est une base importante, mais elle a aussi cette base, je dirais, d'une solidité, en particulier dans le monde polynésien. Elle est partie prenante à cet espace. Ça, les relations avec les pays de la région, au fond, se bâtissent sur trois piliers. Un pilier, je dirais, bilatéral. Nous développons des relations avec les pays de la région, pas seulement parce que nous sommes territorialisés. Nous y développons à la fois par solidarité, par intérêt également. Nous développons aussi des coopérations au travers de l'Union européenne. L'Union européenne est un partenaire politique, pas seulement, là aussi, un pourvoyeur d'aide au développement. Ces dernières années, avec chacun des États et territoires du Pacifique, l'Union européenne est devenue un interlocuteur avec une formalisation d'un dialogue politique de haut niveau. Donc nous devons, je dirais, notre présence, elle est liée à la fois à notre présence dans l'espace mélanésien, dans l'espace polynésien, comme entité politique, je dirais, de puissance, membre permanent du Conseil de sécurité, et comme partenaire de l'Union européenne, en étant le seul partenaire européen, après le Brexit, qui aura une territorialisation dans le Pacifique.
Oui, ce qui, là aussi, fait la différence avec la Grande-Bretagne et les autres pays européens. Est-ce que l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, le fait que la France ait été quand même un pays pilote dans la lutte contre la dégradation du climat, est-ce que ceci est bien sûr un facteur positif dans les liens que nous avons avec les îles de la région?
C'est évident. D'abord parce que la COP21 a été préparée avec les États et territoires insulaires du Pacifique. François Hollande s'est rendu en novembre 2014 à Nouméa. À cette occasion, un dialogue de haut niveau s'est tenu avec les chefs d'État et de gouvernement de la région. Avant même l'ouverture de la COP21, il a tenu, le président de la République, au Palais de l'Élysée, un sommet France-Océanie, qui était le quatrième du nom, avec des sous-segments d'entretien avec les chefs d'État micronésiens, avec les chefs d'État mélanésiens, en présence notamment du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et avec les chefs d'État et de gouvernement polynésiens, en présence du président de l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna et du président de Polynésie française. Donc la COP21 a été préparée, je dirais, étroitement, dans ses objectifs, le 2 degrés, le 1,5 ou 2 degrés, dans la négociation, y compris en valorisant un sujet qui avait été partiellement, mal évalué ou porté trop peu d'attention, qui était la problématique des océans à proprement parler. Et donc d'être présent là aussi au sommet des océans qui s'est déroulé à New York, à titre national et au travers de nos territoires. Le président de la Polynésie française dirigeait sa propre délégation dans cette enceinte, puisque la Polynésie est associée à la Commission économique et sociale Asie-Pacifique des Nations Unies, fait que nous portons une voix plurielle, a fortiori, avec, un poids de l'Union européenne qui était déterminé sur cette thématique.
Est-ce que vous diriez que le réchauffement climatique et la montée des eaux est le défi majeur, le défi principal qui se pose à ces pays ?
En tout cas, c'est un défi qui est considéré comme vital par tous les États. Ils peuvent avoir le sentiment que certaines grandes puissances n'y portent pas suffisamment attention. Ils ont aussi la certitude que ces changements vont impacter, leur territoire, ne serait-ce que parce que les populations vivent sur le littoral, va impacter aussi le courant des échanges, en particulier avec le déplacement vers le sud de nombreuses ressources halieutiques. Or, les territoires insulaires du Pacifique restent fortement dépendants des politiques de pêche. Et donc, il y a la nécessité de comprendre les phénomènes du changement climatique, de développer des politiques de résilience, quelle que soit la nature, qu'on soit un État atoll ou un État montagneux, qu'on soit un archipel ou une île, de large puissance. Il y a la volonté de se faire entendre, son inquiétude, mais aussi les solutions. Je crois qu'on aurait tort de considérer les États et territoires océaniens comme des acteurs passifs dans ces débats. Ils sont porteurs d'idées aux Nations Unies sur les mécanismes assurantiels, par exemple. Ils sont porteurs de coopération scientifique au travers de comment comprendre les savoirs traditionnels, en particulier sur les mouvements. Les mouvements des vagues, sur les migrations, des ressources vivantes. Ils sont pas seulement un problème, ils sont aussi une partie de la solution et sont devenus des acteurs incontournables. Le fait que la COP23 soit présidée aujourd'hui par Fidji, qui est le premier État océanien à assumer une telle fonction, après avoir assumé d'autres fonctions internationales, y compris la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies il y a tout juste un an, montre qu'ils sont proactifs et cherchent des alliances. Alliance des États coralliens, alliance des petits États insulaires en développement, alliance des États insulaires, et les dialogues bilatéraux ou multilatéraux servent aussi à ça. Et dans chacun de ces séquences, la France et ses territoires océaniens sont des partenaires et aussi des relais de ces préoccupations.
Est-ce que le second défi serait la préservation des ressources halieutiques ?
Oui, c'en est une, parce que on voit bien qu'il y a d'abord une exploitation déraisonnable dans les environnements immédiats et
par des navires étrangers,
par des navires étrangers. Et puis attention à ne pas trop segmenter les espaces maritimes. En réalité, notre planète n'a qu'un seul océan, et donc s'il y a une dégradation de la situation en matière de ressources en mer de Chine méridionale, cela a un effet mécanique sur le Pacifique occidental. Donc la préservation des ressources, sous-marines, qu'elles soient en termes géologiques ou en termes animaux, est une préoccupation majeure, a fortiori à l'heure où s'engage une nouvelle négociation internationale sur la gestion des eaux profondes, et notamment au-delà des zones aujourd'hui délimitées.
La position du président américain Donald Trump sur l'accord de Paris par rapport à un certain nombre de pays qui sont très liés aux États-Unis, comment a-t-elle été vécue ? Est-ce que ces pays ont un peu protesté contre le revirement des États-Unis ?
Oui, ils l'ont fait non seulement à l'échelle régionale dans les forums où sont présents les Américains, le Forum des îles du Pacifique en est l'un des exemples, mais aussi dans les relations particulières que certains peuvent entretenir avec les États-Unis. On évoquait tout à l'heure les États micronésiens qui, au travers du Compact Act, ont un dialogue particulier avec Washington. Ils l'ont exprimé, et pour certains, je dirais, sans fleuriture. Une fois encore, un certain nombre de dirigeants océaniens sont des dirigeants qui sont très engagés depuis longtemps sur ce terrain. Le président des Kiribati, le premier ministre des Tuvalu, le premier ministre de Samoa, sont des gens qui, depuis aujourd'hui des décennies, se sont engagés sur ce terrain-là. Et donc, quel que soit l'État, fût-il les États-Unis, on cherche à lui faire comprendre qu'on parle d'un enjeu qui est, une fois encore, perçu comme un enjeu vital et d'existence même de ces territoires.
La formation de la jeunesse, notamment la formation en études supérieures, doit également être un défi majeur.
C'est un défi majeur au travers de trois enjeux. Le premier, il y a d'abord la valorisation des institutions universitaires qui existent dans la région. Depuis longtemps, d'ailleurs, l'Université du Pacifique Sud, qui a son siège à Suva, a cette vocation de former les élites de la région. Les universités qui se sont installées dans la région coopère aussi beaucoup plus avec celles que nous avons nous-mêmes mis en place, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Nous accueillons avec des bourses un certain nombre d'insulaires voisins, mélanésiens pour l'une, polynésiens pour l'autre. Et puis il y a de plus en plus de coopération universitaire entre nos territoires et les grandes universités. Dans le domaine de la biodiversité, entre l'Université de Polynésie française et l'Université de Berkeley aux États-Unis, avec même un campus de Berkeley sur l'île de Montréal, juste en face d'Haïti. C'est vrai aussi avec les grandes universités australiennes. Donc il y a une mise en place, je dirais, de réseaux de recherche auxquels s'agrègent beaucoup d'étudiants de la région, qui dans une très grande majorité sont déjà des anglophones de naissance.
Oui, c'est un milieu largement anglophone, mis à part la Polynésie.
Oui. Et la Nouvelle-Calédonie, oui. Les territoires français, oui. Effectivement. Oui. Mais l'internationalisation de ces universités, je dirais, concourt à une sorte de mixité dans les élites de demain.
Est-ce que vous diriez, pour conclure, que le soutien, la préoccupation, le fait d'être conscient de l'importance de notre présence dans cette région est un objectif bipartisan qui dépasse les clivages politiques ?
Je crois que oui, d'abord parce que notre politique dans le Pacifique ne peut pas être désolidarisée de ce que nous faisons en Asie. Les États du Pacifique développent des coopérations extrêmement étroites avec les pays asiatiques. Et on va le voir de manière très spectaculaire en novembre de cette année, où le sommet de l'APEC se tiendra à Port Moresby. On évoquait tout à l'heure les liens entre l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Le lien entre l'océan Indien et le Pacifique fait qu'aujourd'hui, la région Indo-Pacifique fait sens. Alors, elle fait l'objet de débats stratégiques, voire idéologiques. Mais il y a la nécessité d'avoir cette approche globalisée. Je pense que cette approche globalisée de notre politique asiatique, de notre politique, je dirais, des océans, fait qu'il y a un assez large consensus politique sur ce qu'il faut faire.
Merci Christian Le Charvy de nous avoir éclairé sur une zone dont on ne parle pas très souvent. On en parlait beaucoup quand les choses allaient mal. Il faut peut-être aussi en parler lorsque les choses vont bien. Merci.
Merci.